Mondial Sport sur RFI. Cédric De Oliveira.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça y est, on connaît l'affiche de la finale de la CAN. Ce sera donc Algérie-Sénégal. Les Fennec et les Lions de la Teranga, qualifiés chacun au bout du suspense. On reviendra sur ces demi-finales au scénario rocambolesque avec nos envoyés spéciaux au Caire. On ira aussi au Bénin où les écureuils ont été chaleureusement accueillis après leur joli parcours en Égypte. Et puis le foot, c'est aussi les transferts. On fera un tour par la Catalogne où Antoine Griezmann a été officiellement présenté en tant que joueur du Barça. On rejoindra aussi les routes du Tour de France cycliste en ce jour de fête nationale dans l'Hexagone. Et le tennis, finale incroyable à Wimbledon entre Federer et Djokovic, le Serbe vainqueur d'un duel qui restera dans les mémoires. Mondial Sport, c'est parti. Algérie, Sénégal, voilà donc l'affiche de la finale de la CAN. Bonsoir Martin Guez.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Honneur au premier qualifié de la soirée, le Sénégal, qui est de retour à ce niveau pour la première fois depuis 17 ans.
Et oui, le Sénégal, toujours placé, jamais vainqueur, finaliste en 2002. Il retrouve la dernière marche après un succès arraché face à la Tunisie sous les yeux de notre envoyé spécial Eric Mabrut. Bonsoir Eric.
Bonsoir Martin, bonsoir tout le monde.
Alors un match tantôt brouillon, un match tantôt fou, mais complètement fou même on peut dire Eric.
Oui, c'était un match très très étonnant, un petit peu déconcertant. Alors première mi-temps à l'avantage du Sénégal avec plusieurs occasions franches, dont un tir sur le poteau de Youssef Sabali. Scénario inverse après la pause avec la Tunisie qui est l'équipe la plus menaçante. Deux balles de but gâchées par Yacine Khenissi et puis arrive une séquence avec des pénaltys. Un premier pour la Tunisie, raté par Ferjani Sassi, 75e minute. Un autre pour le Sénégal, tiré par Henri Sévé, mais détourné superbement par Mouez Hassen. 0-0 donc à la fin du temps réglementaire, la prolongation. Et là arrive enfin un but, mais un but gag. Mouez Hassen repousse un centre sur Dylan Brown, son défenseur qui trompe donc son camp. C'est vraiment une grosse boulette du gardien qui permet au Sénégal de passer en tête. On se dit que on va en rester là, le Sénégal va se qualifier. L'arbitre siffle à quasiment la dernière minute un pénalty pour la Tunisie pour une main de Ganagay. Avant de se raviser, 5 minutes plus tard, après visionnage de la vidéo, les Tunisiens sont évidemment en colère, mais bon, finalement, le Sénégal donc arrache cette victoire 1-0 après donc ces moult péripéties. 17 ans après, donc les Lions retrouvent une deuxième finale de Coupe d'Afrique. Idrissa Ganagay, forcément, est ravi.
Un match compliqué, on a bien commencé. Après c'est vrai que depuis le début de la compétition on n'a pas eu à jouer les prolongations, donc c'était un peu compliqué pour nous pendant les prolongations. On était un peu désorganisés, mais voilà, on est content aujourd'hui, on a gagné, c'était le plus important. On savait qu'on avait les qualités pour aller jusqu'au bout. Maintenant on savait que ça allait pas être facile, surtout contre une équipe comme ça qui joue bien au football. Mais on a montré qu'on avait du caractère et qu'on avait du répondant. Aujourd'hui il fallait gagner, on l'a fait. On n'a pas encore fini d'écrire notre histoire, il nous reste encore un match. Il faudra bien le préparer, après on verra ce qui se passera et on espère qu'on gagnera cette coupe et qu'on l'emportera au Sénégal.
Et oui, car là, il s'agit de faire mieux que la fameuse génération de 2002 qui avait perdu à l'époque en finale au tir au but. Cette fois, la bande à Ganagay doit véritablement s'imposer vendredi prochain pour rentrer dans l'histoire.
Du côté de la Tunisie, on peut nourrir d'énormes regrets, Eric.
Oui, avec ce scénario vraiment incroyable. Déjà, c'est ces balles de but énormes de Khenissi, seul devant le gardien qui s'en mêle les pinceaux. Et puis ce penalty sifflé, puis annulé, alors que la main était évidente de Ganagay. Les Tunisiens foudrage, mais qui ont su rester mesurés ensuite dans leur déclaration. Fair play à l'image de l'attaquant de Dijon, Naïm Sliti.
C'est difficile à avaler parce qu'on faisait jouer égal avec le Sénégal et on prend un but bête. On est très déçus, très frustrés, c'est normal. On a eu le penalty, on a eu des occasions aussi. Voilà, fallait être plus tueur, plus réaliste. Et voilà, c'est le football, c'est comme ça. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, le peuple peut être fier de nous. On n'a pas lâché, on a joué le Sénégal qui a des stars, qui ont des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et on a fait face, on a fait aux prolongations, même eux, ils étaient dans le dur. On a poussé jusqu'au bout, on y a cru, Wallah, on y a cru jusqu'au bout. Maintenant, on est déçus pour les supporters, on est déçus parce qu'on voulait vraiment aller au bout, on sentait qu'il y avait cette énergie d'aller au bout. Maintenant, voilà, on accepte et voilà, bravo au Sénégal et nous, on va essayer de bien finir avec cette troisième place.
La Tunisie qui retrouvait le dernier carré de la Coupe d'Afrique 15 ans après.
Et il y avait un match dans le match, Eric Aliou Cissé face à l'Ingérès.
Aliou Cissé qui avait succédé aux Français au poste de sélectionneur du Sénégal. C'était il y a 5 ans, l'élève face au maître d'une certaine manière. L'élève finalement s'est imposé, mais Alain Giresse, lui aussi très fair play et qui à présent eh bien, est le premier supporter du Sénégal. On écoute Alain Giresse au micro de Frédéric Suto.
Avec Aliou, ce qu'il a dit est évidemment la stricte vérité. Tous les échanges qu'on a pu avoir, d'abord on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble. Et ensuite, quand je suis parti, évidemment, qu'on a beaucoup changé au téléphone, sans aucune prétention de ma part, simplement de lui apporter des informations qu'il avait besoin, qu'il me sollicitait. Et bien sûr que depuis, je le suis et je vois que effectivement, il a su complètement bâtir une belle équipe. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais dire pour Aliou, que je suis son premier supporter, évidemment, c'est un joueur qui était en finale en 2002, il va devenir un entraîneur qui va dépasser le joueur qu'il était parce qu'ils vont gagner cette CAN. C'est tout le mal que je lui souhaite du fond du cœur.
Merci beaucoup, Alain.
Aliou Cissé, capitaine de cette équipe finaliste en 2002 et qui avait raté son tir au but face au Cameroun.
Eh bien, merci beaucoup, Eric Mamrut. On vous laisse aller vous coucher.
Eh bien, le Sénégal, Martin, qui retrouvera donc l'Algérie en finale de cette CAN. Je crois que les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de cette CAN. C'était lors de la phase de poule.
Eh oui, l'Algérie l'avait emporté 1-0. L'Algérie qui a continué son parcours donc jusqu'en finale. L'Algérie qui vient de s'imposer 2-1 face au Nigeria sous les yeux de Christophe Jousset. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Alors vous aussi, comme Eric Mamrut, vous avez eu le droit à un match un petit peu fou et un final de folie.
Oui, alors le final, on va y venir, mais d'abord dire que c'est une victoire méritée pour l'Algérie qui a dominé l'équipe du Nigeria avec un grand nombre d'occasions qui sont venues vite, hein, déjà en première période, très tôt, dès la 7e minute, Boudedja avait une première balle de but, pas en réussite, l'attaquant de pointe des Fenech ce soir, il ratera aussi une grosse occasion à la 29e minute, une tête de Ben Sebaini aussi à noter dans cette première période. Ça a failli venir sur un but contre son camp de Collins, qui a manqué de très peu de lober son propre gardien, le Nigérian. Finalement, c'était une première alerte suivie des faits à la 40e minute. Centre de Mahrez, déjà lui, dévié par Collins, le Nigérian, puis par un autre défenseur nigérian, Ekong, dans son propre but. C'est comme ça que l'Algérie a ouvert la marque à la 40e minute. Elle a poursuivi sa domination en deuxième période, mais sur l'apparition de la VAR, la première intervention de l'arbitrage vidéo dans cette demi-finale, eh bien, les Nigérians ont réussi à égaliser. Ça s'est passé de la façon suivante, une demi-volée d'Etebo de très loin, qui n'était pas dangereuse, mais que Mandi a malencontreusement arrêté cette demi-volée d'une main dans la surface de réparation. L'arbitrage vidéo a aidé l'arbitre à se décider et accorder le pénalty, transformé par Igalo pour son 4e but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a repris sa domination, a continué à vouloir aller chercher la victoire et bien lui en a pris puisque sur un coup franc de Mahrez à la 94e minute, un gros coup de patte du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation, eh bien l'Algérie a raflé la mise donc sur ce but, son 3e dans le tournoi de l'attaquant de Manchester City.
Vous le disiez Christophe, Mahrez buteur, Mahrez qui était dans tous les bons coups ce soir, s'il y a un seul joueur à ressortir de ce match, c'est bien lui. Hein.
Oui, il a touché énormément de ballons, c'est probablement son match le plus plein dans cette CAN, une CAN où il a beaucoup joué, hein. Mahrez c'est l'une des stars attendues de la CAN, au même titre que Salah l'Égyptien ou Mané le Sénégalais. Il a été titulaire à chaque match, il n'y a finalement que le 3e match de poule contre la Tanzanie, qualification déjà en poche, que Belmadi l'a laissé sur le banc et ne l'a fait entrer que pour le dernier quart d'heure. Adam Ounas avait saisi cette occasion pour briller en marquant 2 buts. Mais bon, Mahrez, voilà, c'est l'expérience, 28 ans, meilleur joueur de la Première Ligue pour la saison 2015-2016, champion d'Angleterre avec Leicester, avec Vardy, N'Golo Kanté, avant de partir pour Manchester City. Ce soir, donc, Mahrez a touché énormément de ballons et surtout, donc, il a marqué ce but, ce coup de patte du gauche sur coup franc qui renvoie l'Algérie en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis bien longtemps.
Et oui, première fois, belle passe décisive de votre part, première fois depuis 29 ans que l'Algérie se retrouve en finale donc.
Oui, première fois depuis 29 ans. D'ailleurs, c'était en 1990, un 16 mars, comme quoi la CAN ne s'est pas toujours jouée soit en janvier, soit en juin. L'Algérie l'avait emporté 1-0, cette finale, contre le Nigeria. Alors à l'époque, c'était Rabah Madjer, le capitaine. Il y avait aussi Moussa Saïb, il y avait Sherif Oujani, il y avait Jamel Ménad, des glorieux anciens, avec un entraîneur qui s'appelait Kermali. Mais bon, le temps a passé, presque un tiers de siècle, et place maintenant à cette belle équipe qui est compacte, qui joue vraiment comme une équipe, l'équipe d'Algérie, avec Feghouli, avec Mahrez parmi ses stars, et puis une défense qui ne change pas beaucoup, même s'il a fallu gérer l'absence aujourd'hui de Youssef Attal, qui s'est blessé très sérieusement à l'épaule, à la clavicule, et qui est forfait pour le reste de la compétition. Et bien, l'équipe de Jamel Belmadi, le sélectionneur qui est en train qui est presque maintenant à un doigt de toucher son objectif, cette équipe d'Algérie a fait un très très joli parcours et reste bien entendu en course pour le titre face à un autre prétendant, le Sénégal. C'est vraiment une belle finale, hein, Martin.
On espère que vous prendrez autant de plaisir à la suivre que nous. Bonne soirée, Christophe Jousset, on vous laisse rallier vos quartiers.
Alors Martin, donc Algérie-Sénégal, on l'a compris, ce sera à la finale de la CAN vendredi prochain, et deux jours avant, il y aura Tunisie-Nigeria, ne pas oublier la petite finale, voilà, celle des déçus. Et ces quatre équipes qui sont donc toujours en Égypte, les autres éliminées depuis les quarts de finale sont de retour à la maison. Après Madagascar, on en parlait hier dans Mondial Sport, c'est l'autre grande surprise de la compétition, le Bénin qui a retrouvé son public.
Et oui, comme les Baréas, les écureuils ont eu droit à un accueil triomphal dans la capitale politique et économique Cotonou. En quatre participations, le Bénin n'a jamais remporté le moindre match en Coupe d'Afrique, et s'ils n'ont toujours pas gagné, les joueurs de Michel Dussuyer ont réalisé une performance historique, sortir des poules grâce à trois matchs nuls et sortir le Maroc au tir au but en huitième, l'un des favoris du tournoi. Qu'importe si les Béninois ont chuté face au Sénégal en quart, la performance reste unique et a été fêtée comme il se doit, comme a pu le constater Félix Oundé-Péperipé.
Il n'y avait pas de place pour tout le monde à l'aéroport international de Cotonou, sous une troupe exiguë pour accueillir ces milliers de Béninois venus fêter leurs héros. Pour célébrer le retour des écureuils, une caravane a défilé dans les rues de Cotonou au son des klaxons, des tam-tams et des castagnettes. Motards, taxis, supporters, tout le monde s'y est mis. Des fans qui ont vibré au rythme des exploits des écureuils et qui étaient surexcités sur le chemin du retour de ces nouvelles gloires.
Mais ils sont chauds bouillants, je les adore. Non, ils nous ont surpris agréablement, donc il faut leur faire du bien. On les accueille comme il le faut. Il n'y aura pas de nuit aujourd'hui. Après le stade, on va en boîte. On est là, on est chaud bouillant. On est dans la fête.
Bon, c'est bon, on a aimé. Les joueurs, ils sont à féliciter, donc ils nous ont rendus fiers. Ils ont fait quelque chose qu'on n'a jamais eu dans ce pays. On va travailler encore plus. Dans deux ans, au Cameroun, on ira en finale.
Après un passage au domicile du chef de l'État, où un accueil chaleureux a été réservé aux écureuils, la caravane a repris sa route jusqu'au stade général Mathieu Kérékou, où un grand concert était organisé pour célébrer les internationaux béninois. L'euphorie gagne tout le monde, y compris les joueurs comme les défenseurs David Kiki et Olivier Verdon.
On est vraiment content de rentrer au pays, voir tout le monde. Ben, le secret, je dirais que c'est notre groupe, parce que je pense qu'on a un groupe maintenant qui est ensemble depuis un certain nombre de temps, et puis on s'est créé beaucoup d'affinités entre nous, et aussi il y a beaucoup de solidarité. Donc on avait à cœur de faire quelque chose d'exceptionnel, et puis on savait que avec les capacités qu'on avait, avec les éliminatoires qu'on avait fait, on pouvait faire quelque chose de bien.
Ça fait chaud au cœur de voir qu'on a pu rendre le pays fier. Nous, on est en tout cas très contents de notre pays parce qu'ils nous ont encouragés. Ça a été le 12e homme. Même les supporters qui sont venus là-bas nous encourager, ça nous a fait chaud au cœur. Du coup, on les remercie et ça fait plaisir de voir que notre pays fait qu'un et qu'on est tous en communion.
Pour le sélectionneur Michel Dussuyer, c'est forcément un sentiment de satisfaction qui prédomine après le parcours du Bénin durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Le technicien français qui voit loin, il pense déjà à la prochaine CAN.
On a dépassé même les objectifs qu'on s'était fixés au départ, donc c'est une belle satisfaction, et puis aussi le plaisir d'avoir offert de la joie à tous les Béninois et qui ont soutenu leur équipe. On va rentrer dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021 et dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc l'objectif c'est de se qualifier déjà pour la Coupe d'Afrique 2021, et puis pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, d'essayer de tout faire pour franchir des paliers. Ça, c'est une compétition aussi qui est relevée, il y aura des poules de 4, finir premier. Donc ça veut dire qu'il faudra sortir une grosse équipe. Et après, il y a encore les barrages derrière.
Le concert géant, lui, a pris fin à l'aube. Félix Sondé, Péparipé, Cotonou, RFI.
Alors Martin, beaucoup plus attendu que les Béninois dans la compétition, les Ivoiriens ont eux aussi pris à la porte dès les quarts de finale. Mais les éléphants sont revenus dans la bonne humeur à Abidjan.
Ah oui, des éléphants vainqueurs il y a 4 ans qui ne décrocheront pas de troisième sacre cette année. Battu au tir au but par l'Algérie, finaliste donc de cette édition. Mais malgré les grosses pluies, malgré le retour très tardif dans la nuit des joueurs de la Côte d'Ivoire, il était un petit peu plus de 200 pour accueillir les joueurs d'Ibrahim Camara. Notre correspondant aussi a veillé jusqu'au bout de la nuit. Reportage d'Emmanuel Kofi.
Arrivée des éléphants au cœur de la nuit profonde, ambiance. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens ravis de retrouver les éléphants malgré leur élimination précoce de la CAN 2019.
Je suis très satisfaite du passage des éléphants. Ils n'ont pas de vérité parce qu'ils sont tombés les âmes à la mer. Et nous sommes fiers d'eux et en tant qu'une mère, nous les soutenons et on va les soutenir toujours.
Vous auriez voulu les voir continuer quand même la compétition, aller plus loin que cette étape à laquelle ils se sont arrêtés?
Oui, on aurait voulu, pourquoi pas la coupe, venir en Côte d'Ivoire. Mais hélas, la chance ne nous est pas souri, sinon que ce n'est pas de leur faute. Et on ne les en veut pas.
Le dernier match contre l'Algérie, vraiment, ils ont été à la hauteur. On revivait encore les matchs passés. Et dès que nous avons commencé à prendre goût, et puis bon, malheureusement, le destin a permis qu'il reste à ce niveau-là. C'est une compétition, on voulait bien être quand même en phase finale, mais les joueurs n'ont pas démérité parce que quand même se sont battus. Et ce dernier match-là nous a remis en confiance. Nous sommes tombés les âmes à la main parce qu'ils ont été à la hauteur, vraiment.
Je pense que le parcours, pour moi, il est moyen. C'est vrai qu'en match de poule, les prestations, je pense, n'étaient pas à la hauteur. En huitième de finale, on a pu passer et je pense qu'ils ont livré une très bonne prestation en quart de finale. Malheureusement, le sort nous a pas été favorable. Donc de façon globale, c'est une prestation moyenne et je pense que cette équipe-là méritait et pourra aller plus loin sûrement au cours des compétitions futures.
L'accueil chaleureux des joueurs, Max Gradel apprécie.
On est content de les voir, mais en même temps, on est déçus, on aurait préféré les voir encore plus heureux avec, pourquoi pas, la coupe. Mais bon, c'est la vie, et voilà, faut passer à autre chose maintenant.
Les échéances futures pour les éléphants, Sylvain Beau y pense déjà.
La CAN, elle est finie, donc il n'y a pas de regret. Je pense qu'on a tout donné, donc voilà. L'objectif, c'était de se qualifier pour le second tour. Voilà, on a atteint notre objectif. On allait plus loin que ça, donc voilà. Je pense que c'est un bonus. On va se remettre au boulot. Les échéances qui arrivent bientôt, qui sont l'éliminatoire de la Coupe du Monde de la CAN. On a un groupe jeune qui commence à avoir des automatismes ensemble. Vous verrez bien en septembre le groupe qu'il va avoir et l'envie qu'on va donner.
Pour raison de contrat à finaliser, certains joueurs n'ont pas rallié Abidjan. Parmi eux, Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Jonathan Kodja. Emmanuel Kofi, Abidjan, RFI.
Voilà, c'est la fête en Côte d'Ivoire, c'est la fête au Bénin, c'était la fête hier à Madagascar, c'est la fête partout, c'est la fête aussi en studio, Cédric.
Bah, c'est la fête aussi à Paris avec les supporters algériens. Aussi.
Il ne reste plus grand monde par contre pour faire la fête en Égypte. Plus que 4 équipes, la Tunisie et le Nigeria qui se disputeront la 3e place mercredi et le Sénégal face à l'Algérie. Donc pour la finale, la vraie, vendredi prochain.
Eh bien on suivra ça évidemment sur RFI, tous ces matchs. Eh bien, merci Martin Guez en tout cas pour cette large panne Coupe d'Afrique des Nations. Pendant que la CAN bat son plein en Égypte, eh bien en Europe, on prépare la saison prochaine pour les clubs. L'été est synonyme de période de transfert. L'un des feuilletons de l'été, c'est l'arrivée d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Le champion du monde qui a quitté l'Atlético de Madrid où il évoluait depuis 5 ans contre la volonté des Colchoneros. Le Barça a payé la clause libératoire de 120 millions d'euros, une transaction contestée par l'Atlético devant les tribunaux. Mais celui qui portera le maillot 17 avec les Blaugrana veut maintenant tourner la page. À Barcelone, le reportage de François David.
Et c'est un Antoine Griezmann, fatigué mais soulagé, qui a officiellement été présenté le 14 juillet, tout un symbole. Après plus de 2 mois de négociations et de tensions entre l'international français, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, le club où il évoluait depuis 5 saisons. Sans doute vexé de voir son attaquant emblématique s'envoler pour rejoindre un rival direct pour le titre de champion d'Espagne, l'Atlético avait menacé il y a quelques jours de poursuites judiciaires le FC Barcelone. Selon le club madrilène, le Barça avait commencé à négocier directement avec Griezmann avant le 1er juillet, jour où sa clause libératoire passait de 200 millions d'euros à 120, une pratique officiellement interdite par la FIFA. mais qu'aucun club ne respecte vraiment dans le football, y compris l'Atlético. Une menace que le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, préférait ne pas prendre au sérieux.
J'ai parlé avec l'Atlético et il n'y a aucune preuve de ce qu'ils avancent. Je comprends bien évidemment que l'Atlético défende ses intérêts, mais le Barça le fait aussi. J'ai même parlé avec Celso, le président de l'Atlético, mais vraiment, il ne va y avoir aucune solution positive pour eux, simplement car il n'y a rien de répréhensible.
Quant à Griezmann, entouré de toute sa famille et de tous ses amis, dans ce qui pouvait s'apparenter à son jour de gloire, il pouvait donc respirer après plusieurs semaines de pression de la part de l'Atlético. Alors si le champion du monde est habitué au football et à ses coups tordus, et a donc plutôt bien géré l'officialisation de son arrivée pour son entourage, l'histoire a été différente, comme il nous l'a expliqué au cours de sa conférence de presse.
Dommage par rapport à l'Atlético. Je suis allé les voir exprès pour pas les mettre en porte-à-faux, pour qu'ils puissent préparer l'avenir. On s'était mis d'accord et finalement ça a changé. Mais c'est comme ça. Faut accepter. Comme j'ai dit avant, normal ou avec un peu stress. Mais si on demande à madame, ça sera tout le contraire. Quelques jours, mais très intenses et les nuits courtes.
Finalement, tout est bien qui finit bien. L'Atlético a reçu 120 millions pour le transfert et ne mettra donc pas sa menace à exécution auprès de la FIFA. Quant au Barça, il a enfin le joueur qui va lui permettre d'être le principal candidat à la victoire en Ligue des Champions. Un titre qu'il n'a pas décroché depuis 2015. François David, Barcelone RFI.
Et Antoine Griezmann et le Barça qui vont maintenant prendre la direction du Japon pour une tournée de matchs amicaux. On verra peut-être Antoine Griezmann. Donc le 23 juillet, ce sera face à Chelsea. Le premier des matchs amicaux donc au Japon. Allez, on prend maintenant la route du Tour de France et précisément du département de la Haute-Loire où le peloton faisait étape aujourd'hui, où se trouve l'un de nos envoyés spéciaux, Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas, vous êtes à Brioude, ville natale du français Romain Bardet, mais c'est un coureur sud-africain qui a levé les bras aujourd'hui.
Oui, Daryl Impé, éphémère maillot jaune lors du Tour 2013, coureur complet, malin, rapide, il l'a prouvé aujourd'hui d'abord. En résistant à la grande lessive au sein d'un groupe d'échappés réduit à peau de chagrin au fur et à mesure des kilomètres et des bosses d'un circuit casse-pâte. Et puis, surtout, en réglant au sprint son dernier compagnon, le belge Tige Benot, Richard Rifono est allé recueillir la première réaction de Daryl Impé tout à l'heure. Écoutez.
C'est un jour spécial qui n'arrive pas si souvent dans une carrière. J'avais de bonnes jambes, c'était vraiment une journée parfaite. Quand vous venez sur le tour, vous êtes ambitieux et vous vous dites que tout ira bien, mais vous savez aussi à quel point c'est difficile. Et là, réussir finalement à enlever l'étape, c'est incroyable, c'est un aboutissement. Le cyclisme est un sport tellement difficile avec des hauts et des bas, mais les hauts sont vraiment incroyables à vivre. Je suis passé très près d'un succès plusieurs fois dans le Tour de France, cette fois c'est arrivé et c'est un super moment.
Et cette victoire de Daryl Impé, Cédric, est seulement la deuxième d'un coureur africain sur la grande boucle. Le pionnier était lui aussi sud-africain, Rob Hunter, vainqueur à Montpellier, c'était en 2007.
Alors voilà pour le vainqueur de l'étape. Du côté des favoris, pas de grande manœuvre aujourd'hui, Thomas.
Oui, il y a bien eu cette timide tentative de l'enfant du pays, Romain Bardet, escorté par l'Australien Richie Porte. Quelques longueurs d'avance, pas plus, sur un peloton conduit par le train Ineos et rapidement revenu à hauteur des audacieux. Pour le reste, RAS, rien à signaler. Julian Alaphilippe a fini la journée bien au chaud, dans le paquet, sans effilocher son beau maillot jaune. Bref, un 14 juillet parfait, mais n'allez pas non plus lui dire tranquille.
Tranquille, c'est un grand mot, mais ça s'est bien passé. C'était une journée spéciale aujourd'hui, voilà, 14 juillet en jaune sur le tour. C'était vraiment, vraiment super. L'équipe a fait un bon travail pour contrôler. Il fallait rester attentif dans le final. J'ai répondu présent aux attaques et je suis content de passer la ligne en jaune. Je me vois en jaune demain déjà et j'espère pour la journée de repos. J'irai m'acheter un maillot de bain jaune.
Et pourquoi pas, tiens, ça lui irait bien. L'homme qui voit la vie en jaune, Julien Alaphilippe, toujours avec celui qui voit la vie en rose, Richard Rifono.
Eh bien voilà, Julien Alaphilippe qui devance tous les favoris du général. Thibaut Pinot est lui à 53 secondes, Geraint Thomas à 1 minute 12, Egan Bernal à 1 minute 16 et les autres encore plus loin. Reste cette question, Thomas, quand le coureur de la Quick-Step risque-t-il de perdre cette première place ?
Alors sûrement pas demain, le parcours n'est pas assez dur, sûrement pas mardi c'est repos, sûrement pas mercredi c'est tout plat, et ensuite se dresseront les Pyrénées, et alors là, point d'interrogation, le meilleur puncheur du monde peut-il faire jeu égal avec les meilleurs grimpeurs du peloton ? Peut-il changer son raid ? Écoutez ce qu'en pense un garçon qui s'y connaît en épopée, Thomas Veuclair, sélectionneur national de l'équipe de France et consultant chez nos camarades d'Europe 1, de France Télé, surtout maillot jaune mémorable à deux reprises dans sa carrière en 2004 et 2011.
D'un point de vue physique, à n'en point douter, il pourrait garder le maillot longtemps, faire un bon classement général à Paris, mais ce n'est pas dans les plans de son équipe et je suis pas persuadé que ça soit dans ses plans à lui non plus. Donc là, à mon avis, il va aller en jaune jusqu'à Bagnères-de-Bigorre, voire Pau. Mais je pense sincèrement que Julien, son équipe est articulée autour d'un sprinter, donc avec des coureurs pour travailler pour le sprint et non pas contrôler un maillot jaune. Julien, je suis convaincu qu'il va avoir la consigne, même s'il a envie de continuer peut-être l'aventure en jaune. Il va avoir la consigne de se laisser décrocher un petit peu au classement général, presque de manière volontaire, pour avoir une liberté d'aller dans les échappées, de courir comme il aime courir aussi, il faut le dire, avec panache, prendre des échappées et aller gagner des étapes.
Voilà, un avis ou un conseil, peut-être un peu des deux, chacun se fera son avis. En tout cas, il reste beaucoup de routes dans ce Tour de France, à commencer par demain, 10e étape, Saint-Flour-Albi, ce sera long et a priori pour les sprinteurs, sauf si des baroudeurs réussissent un casse à la Thomas de Gent hier sur la 8e étape.
Eh bien, merci beaucoup Thomas de Saint-Léger, on suivra ça avec vous et avec Christophe Diremzian. Bonne soirée à vous sur RFI. On termine ce Mondial Sport par un grand rendez-vous à une finale complètement dingue. On parle de tennis, c'était tout à l'heure à Londres sur le gazon de Wimbledon. Victoire en 5-7 de Novak Djokovic, le tenant du titre, face au maître des lieux Roger Federer, octuple vainqueur de ce tournoi. Bonsoir Thomas Vichard.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors Thomas, cette finale, elle était tout simplement historique, n'ayons pas peur des mots, sur plusieurs points.
Oui Cédric, le score, je vous le rappelle, c'est 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 et 13-12 en faveur de Djokovic. Vous l'avez compris, pour la première fois à Wimbledon, il y a eu un tie-break dans la dernière manche à 12 jeux partout. 5-7 et près de 5 heures de jeu, 4h57 pour être précis. Et c'est important parce que jamais une finale n'avait duré aussi longtemps à Wimbledon. La dernière fois que deux finalistes avaient passé autant de temps pour se départager, c'était en 2008. Et devinez quoi, Roger Federer était déjà là. Il avait aussi perdu contre un certain Rafael Nadal. L'Espagnol avait mis 4h48 pour vaincre son adversaire et remporter son premier Wimbledon. Et justement, tout à l'heure, après ce match contre Djokovic, Roger Federer ne pouvait que comparer les deux finales.
C'était un match incroyable avec des points merveilleux. Il y avait tout dans cette rencontre. Novak a été extraordinaire, donc je pense qu'on se souviendra longtemps de cette finale. Quant à moi, eh bien, c'est comme pour la finale de 2008. Alors, dans quelques temps, je regarderai derrière moi et je me dirais que ça n'était pas si mal après tout. Mais pour l'instant, cette défaite fait mal, comme à chaque fois que j'ai perdu ici à Wimbledon. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir avancer. Je suis très fort pour ça parce que je ne veux pas être déprimé à cause d'un match de tennis incroyable.
Action, amazing tennis match. Voilà, un match incroyable pour Roger Federer après cette défaite contre Novak Djokovic. Justement, Thomas, parlons un peu de cette performance du Serbe.
Oui, invraisemblable de sang-froid dans les moments cruciaux de la rencontre. Il a remporté tous les tie-breaks disputés et puis surtout, quelle solidité lorsque Roger Federer a eu deux balles de match sur son service. Le numéro 1 mondial a retourné parfaitement avant de l'emporter quelques minutes plus tard. C'est presque du jamais vu. La dernière fois que c'est arrivé dans une finale à Wimbledon, c'était en 1948, Cédric.
Eh bien, merci beaucoup, Thomas Vichard, pour ce point donc sur cette victoire de Novak Djokovic à Wimbledon. Voilà, Mondial Sport c'est terminé, merci aussi à Fabrice Violet qui m'a aidé à préparer cette émission. Mondial Sport, on revient donc samedi et dimanche prochain. Et pour l'heure, eh bien, je vous invite à écouter Radio Foot International demain avec toute l'équipe d'Annie Gasnier. Ce sera à partir de 15h10 temps universel. N'oubliez pas les réseaux sociaux avec Instagram et Twitter et Facebook. Pour l'heure, je vous souhaite une très bonne soirée sur RFI.